Et la cantique était parfaite pour le message de ce matin. Je suis monté en moto. C'était bien que Jean m'a demandé de venir. J'avais pensé de faire un voyage en moto ici en Suisse. Et lorsque Jean m'a invité, j'ai dit que ça correspond parfait de prendre les routes vers Grenoble. Il y a un lieu où on tourne le coin, le virage, et devant vous, on regarde la vallée avec les montagnes. C'était spectaculaire. C'est normal pour vous de voir les montagnes. À Marseille, on a quelques-uns, mais pas aussi grands que ceux ici. Les montagnes sont les résultats de la dévastation du déluge. Donc, ce que nous voyons autour de nous, les montagnes, les grandeurs de ces montagnes, c'est en fait, c'est l'évidence d'une catastrophe. Mais on voit que Dieu les couvre avec les forêts, la verdure, et dans un sens, lorsque j'étais en train de venir, j'ai pensé, c'est comme la vie, comme notre vie. Nos vies, ils sont une catastrophe, ils sont marqués par les cicatrices de nos péchés. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous recouvre avec la justice, la sainteté de Jésus-Christ. Et il transforme cette catastrophe en beauté. Donc, c'était juste une petite réflexion de mon voyage ici. C'est la première fois. On a évité tous les déluges, toutes les inondations, la pluie jusqu'à ce matin. Mais c'était bien. J'ai passé à Aix-les-Bains de voir avec un autre, je crois, Steve Niles, qui vient de temps en temps. J'ai passé la nuit avec cette famille. Et c'était une joie de voir comment Dieu est en train de construire et agrandir son Église dans la francophonie. Je connais Jean et Meg depuis 30 ans. Nous sommes sortis de la même Église au même moment dans la francophonie. Eux ici en France, moi et ma femme au Tchad. Donc je les connais maintenant. Ça fait 30 ans que je les connais. C'est incroyable d'en penser. Avant qu'ils ont parti, ils ont dit, voici les vrais missionnaires, ils partent en Afrique, parmi les musulmans. Et donc, ils ont dit, nous partons en France, et c'est la vie aisée. Et on a toujours taquiné l'un et l'autre. Et j'ai dit, les vrais missionnaires, ils portent toujours un couteau suisse. Et Jean, il n'en avait pas. Et donc, pour son départ, je lui ai offert un couteau suisse, comme ça il sera un vrai missionnaire. Je ne sais pas, peut-être en voyant cette petite drapeau, la croix, le bouclier avec la croix, peut-être c'est par cela qu'il a reçu l'idée de venir ici à Genève. Mais il y a quelque chose aussi, de temps en temps, je taquine Jean, parce qu'il est toujours en train de dire, le Genève, c'est la ville de la réforme. C'est là l'origine de la réforme. Oui, on a Luther, mais Calvin, la cathédrale ici, Calvin a formé les francophones comme évangélistes missionnaires. Il donne toujours ses Reformation Tours. Il a écrit le livre pour son doctorat sur une visite picturesque de la ville de Jean Calvin. Et donc, je dis oui, c'est vrai, Genève est une des villes de l'origine de la réforme, mais Marseille est aussi la ville de sa mort. À Marseille, nous avons le lieu où on avait les arsenaux, où les galères, des bateaux galères étaient stationnés, étaient garés. Nous avons le château d'If, jusqu'en face de Marseille, où il y avait plus de 3500 protestants francophones qui étaient emprisonnés. Un grand nombre de ceux que Jean Calvin a enseignés ici, ils étaient soit mis à mort en France ou enchaînés sur les galères jusqu'à leur mort. Ces navires propulsés par les rames aussi grands qu'un poteau de téléphone. Nous avons aussi, pas loin de Marseille, le Tour de Constance, où les femmes protestantes aussi étaient emprisonnées. La plus fameuse, c'est Marie Durand, qui était emprisonnée, incarcérée pendant 40 ans. Donc, si vous voulez vraiment connaître la réforme, ce n'est pas simplement ici à Marseille, mais dans les prisons, dans les tours, dans les châteaux forts et dans les galères de la France. Et donc, en titre, une partie de le titre de ce message est que j'ai donné, c'est Post Tenebras Lux. Et je crois que vous connaissez ces mots. Après ténèbres, lumière. C'est un des slogans de la réforme. On a attribué celui-ci à Jean Calvin, certains, et ces paroles signifient un retour à la lumière de la Bible après des années, des siècles d'une Église dirigée par les superstitions et des imaginations humaines. Et pour un grand nombre de ces réformés, ces mots ont parlé de leur espérance. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, souvent jusqu'à la mort. Et ils savaient qu'après les ténèbres de cette vie terrestre, ils attendaient la lumière céleste. On appelle les partisans de la réforme protestants. Et on peut dire qu'ils ont protesté contre les abus de l'Église, l'Église de l'État, l'Église dite catholique. Mais dans un sens, ce mot a un sens différent. Protestant, pro veut dire pour. Et tester vient de attester, donc ils ont attesté pour la vérité de la Bible, et ils ont contesté contre les abus de l'Église. On les appelle huguenots. Et la deuxième partie du titre de ce message est l'importance de l'ascension de Jésus-Christ dans la vie d'un forçat huguenot. Et ce matin, je voudrais vous introduire à un de ces huguenots. Élie Nault. Il était né en 1662 dans la Charente-Maritime, côté Atlantique de la France, 40 kilomètres au sud de La Rochelle. À l'âge de 12 ans, il entame comme mou sa carrière de matelot sur une des nombreuses barques qui reliaient les ports de Bordeaux, Nantes et La Rochelle. Et le protestantisme est implanté très tôt dans cette région, depuis plus de 100 ans, avant la naissance de ce monsieur. Et c'est une région sûre pour les protestants, jusqu'à l'année de 1629, l'année où on avait un édit d'appel Nîmes, édit de Nîmes, qui supprime le statut des places de sûreté. Et on a vu le principe, un roi, une loi, une foi, s'est imposé, et les régions de sûreté ont été subjuguées par le roi. À partir de 1669, l'année au cours de laquelle Élie Nault effectue sa première traversée de l'Atlantique, la situation des protestants devenait de plus en plus difficile, plus en plus précaire. On avait les forces militaires qui ont commencé à envahir ces régions. Il y avait des procès contre les pasteurs, contre les églises protestantes. L'offensive a atteint un premier paroxysme avec les dragonnades, où ils ont envoyé les militaires dans ces villes pour les reconvertir. Et ceux qui risqueraient à revenir au temple sont tombés sous le coup du crime de relapse. Et à cause de persécution des protestantes en France, M. Nault a décidé de rester dans l'île de Haïti, une colonie française devenue Haïti à ce jour-là. C'était le protestantisme encore était officiellement interdit, mais les protestants vivaient une vie calme avec leur propre foi. Ils élevaient leurs enfants, se mariaient, faisaient baptiser leurs enfants selon la foi biblique. Alors, lorsqu'il était aux Caraïbes, il y avait un autre édit envoyé par le roi, celle de Fontainebleau, et cette édit a condamné, interdit aux réformés la sortie du royaume sans autorisation du roi. sous peine de galère. Au fur et à mesure, les mesures anti-protestantes se durcissant, même dans les Caraïbes, ce monsieur Noah s'est établi à Boston, colonie anglaise. Il a épousé une veuve huguenote et aussi s'est acquis de la nationalité anglaise. Alors qu'il commandait un navire à destination de la Jamaïque, il a été pris comme otage par un corsaire français qu'il a ramené en France. Il a beau argumenter sa nationalité anglaise, mais il était considéré par l'État franco-français un protestant français. Il était emprisonné pendant 4 ans, condamné par les juges de l'Admiralté, et après 35 jours de marche de Bretagne jusqu'à Marseille, un voyage de plus de 1100 kilomètres, la chaîne de Bretagne Fort de 135 forçats arrivait à Marseille. Voyage épuisant, rendu plus pénible encore par la pluie, la malnutrition et par la vindicte des foules catholiques. À Marseille, il reçoit un numéro, un uniforme de galérien. On lui enlève son collier pour enserrer les chevilles. Elino est mis pour 6 mois sur la galère, la vieille madame, et 6 mois sur la galère, la magnanime. Il est attaché avec 4 cogénères à un banc par un chêne d'environ 3 mètres qui l'oblige à ramer, manger, dormir et faire ses besoins dans ce périmètre infesté de parasites. Il était surpris à exhorter ses co-religionnaires par la lecture de la Bible et de chanter des psaumes, et donc il était envoyé au château d'If. Il a passé 50 jours dans la tour et puis il était envoyé dans les cachots au fond du château d'If, privé de la lumière du soleil. Il écrit: « Je vous prie de penser à la vie qu'un homme peut mener dans un cachot sans lumière. Ils ont même maçonné la fenêtre. J'ai un sac sur le dos et un bonnet d'esclave sur ma tête. Et le Dieu que j'adore sait qu'il y a 3 ans que ce bonnet est sur ma tête. Des chemises de serpillière, sans souliers, des caleçons de même toile que les chemises, défense à personne de nous parler, ni de nous donner aucun livre, sans feu ni chandelle. N'avouerez-vous pas qu'on peut appeler notre vie une mort vivante? » Les historiens nous disent que l'espérance de vie à cause de ces situations pour les galériens était 9 mois. Et M. No conclut en disant: « Mais si je vous dis qu'au défaut de la lumière du soleil de la nature, le soleil de la grâce fait briller ses divins rayons dans nos cœurs. » Les forçats se trouvaient sous la pression quotidienne de reconvertir au catholicisme par les magistrats, les officiers, les missionnaires, les magistrats qui tentèrent de le faire abjurer. Et il a écrit: à tout cela, il n'avait point d'autre remède pour éviter la chaîne et la galère que de changer la religion. Il a dit: je pris le parti de la chaîne en demeurant dans ma religion. Et 60% des galériens n'ont pas abjuré. Et aujourd'hui, si vous visitez le château d'If, vous y trouverez une plaque en marbre qui commémorait les 3500 protestants condamnés aux galères et aux prisons de Marseille. Et ce matin, nous cherchons à comprendre quel est l'accord entre la vie de ce monsieur et notre vie aujourd'hui. Comment il a bien prospéré dans ces situations. Mais regardons ce qu'il a dit à tout cela qui n'avait point d'autre remède pour éviter la chaîne et la galère que de changer la religion. J'ai pris le parti de la chaîne en demeurant dans ma religion. Et une personne normale va dire: c'était stupide. C'est quelle absurdité Les pouvoirs de la France ont poursuivi ce monsieur jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, l'ont amené jusqu'à la France, l'ont enchaîné, l'ont emprisonné et l'ont condamné à mort sur les galères, simplement avec le désir qu'il change sa religion. Et on dit, c'est absurde. Comment la France s'investit tellement de force et d'énergie et de l'argent simplement pour un seul homme puis changer de religion? Et ensuite, il a subi toutes ces épreuves simplement parce qu'il a refusé de la faire. Et encore, c'est de la folie. Tout ce qu'il a dû faire était de réciter un texte, enlever son bonnet lorsqu'ils ont récité la Ave Maria. Et il a refusé. Il a donc frôlé la mort à cause de son insolence. Et nous constatons qu'il avait des milliers d'autres, des hommes et des femmes pareils. Tout ce qu'il a fallu dire était, d'accord, ok, je suis catholique. Ave Maria, béni sois-tu parmi toutes les femmes, et amen. Et c'est tout pour échapper à toute cette galère. Pourquoi? Et nous savons que la réponse est simple. C'est la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Et le grand message du Nouveau Testament, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a été mis à mort sur une croix, vraiment un meurtre, sans avoir jamais commis un seul crime. Il périt innocent, placé dans un tombeau, prêté par un ami derrière une porte en pierre. Celle est gardée par les soldats romains. 3 jours plus tard, il a été ressuscité d'entre les morts. Et c'est le message prêché par les apôtres, par les missionnaires, enregistré sur les pages de l'Écriture. Et 40 jours plus tard, il a été enlevé au ciel. Et je crois que la plupart de nous connaissons bien cette histoire. Cette histoire donnée par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Cette histoire terrestre de la vie de la résurrection de Jésus-Christ. Nous lisons le premier chapitre du livre des Actes qui parle de l'ascension de Jésus d'un aspect terrestre. Le lien entre le ciel et la terre, entre le terrestre et le céleste. Et nous célébrons le dimanche de la Pâque. Et je ne sais pas si vous avez les concerts, les messages puissants, les cantiques glorieuses, joyeuses. Et c'est bien, c'est juste. Mais souvent, le jour de l'Ascension n'est qu'un jour férié. Et on espère que ça tombe sur un vendredi ou un lundi pour avoir un week-end long, pour partir en vacances, n'est-ce pas? Peu de célébration, peu d'importance. Mais c'était crucial. Si Jésus a été ressuscité et a resté sur terre, il n'aurait été qu'un homme intéressant, peut-être un roi terrestre, mais pas le Dieu puissant siégé dans un trône céleste. Mais il y a 2 autres passages où Dieu retire les rideaux des lieux célestes et de voir la scène au ciel lorsque Christ est ascendu et monté au ciel. Il se trouve en Psaume 24, Apocalypse chapitre 4 et 5. Et nous allons alterner entre ces 2 passages. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Psaume 24. Et l'Église primitive lui a donné le nom messianique, un psaume d'ascension, un psaume de l'ascension du Messie au ciel. Et je commence avec verset 1, un psaume de David. C'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qui s'y trouve, le monde avec tout ce qui l'habite, car c'est lui qui a fondé sur les mers et qui l'installe sur les fleuves. Et ici nous voyons, c'est simple, que Dieu est loué parce qu'il est le Créateur. Et maintenant, tournez en Apocalypse, chapitre 4. Mais gardez votre place. Gardez votre place en psaume 24. Et on va juste lire un seul verset en Apocalypse, chapitre 4. Nous voyons verset 11. Nous lisons. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Et retournez en psaume 24. En verset 3, nous continuons et nous voyons qu'une question est posée ici. David a dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Et la question ici est simple. Qui peut aller au ciel? Qui peut se rapprocher à Dieu? Qui puisse entrer dans sa sainte présence? Et la réponse est simple. Celui qui a des mains pures, qui est innocent. Donc c'est une réponse simple. Retournons à Apocalypse chapitre 5. Et nous voyons une question parallèle est posée. Chapitre 5, verset 1. Dans sa vision, Jean nous écrit cela. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne? Parallèle avec ce psaume, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et encore une réponse, une question, qui est digne? Mais nous trouvons la réponse ici est terrifiante. Verset 3, Jean a dit, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et les questions sont pareilles. Qui est digne, qui peut monter, qui est innocent, qui a des mains pures? Je ne sais pas de vous, mais lorsque je lis cette question en psaume, je veux dire, moi, je veux monter, je veux avoir les mains pures. Et je crois que chacun de nous veut dire, moi, qui peut monter au ciel? Moi. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons confesser en fait, non, ce n'est pas moi. Je ne monterai pas dans la montagne de Dieu. Je n'entrerai pas dans sa sainte présence. Je veux avoir les mains pures. Je veux avoir les mains innocentes, je veux avoir un cœur pur, mais je constate et je confesse, ce n'est pas la vérité. Et voici pourquoi dire que la réponse est terrifiante. Parce que ni vous ni moi soyons innocents. Nous ne soyons pas purs. Et partout la Bible nous enseigne que Dieu est bon. Dans le cours de dimanche, nous enseignons nos enfants, Dieu est bon. Nous le chantons dans nos cantiques, Dieu est bon. Mais le problème, c'est, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas les êtres bons. Retournons en Apocalypse chapitre 5. La Bible nous dit, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. J'en parlais d'un rouleau, un sorte de livre qui contenait le plan de Dieu. Et il n'y avait personne digne pour l'ouvrir. Alors il commençait à pleurer. Parce qu'il a vu l'état des hommes et a constaté le même problème que la Bible. Vous connaissez en Romains chapitre 3, verset 10, L'Écriture le déclare, il n'y a pas d'homme juste, même pas un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, même pas un seul. Personne. À Marseille, Marcelin, il connaît, nous disons Dagon. Il est Dagon qui est bon, qui est juste. Personne. Donc si vous descendez à Marseille et quelqu'un dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait, il est Dagon. Ça veut dire il n'y a personne. Alors Jean était dévasté. Et nous lisons en verset 5, l'un des anciens me dit, mais ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et pour que vous compreniez, je dois ajouter que ici, c'est une vision, c'est symbolique. Jésus-Christ n'est pas devenu un mouton. Et le numéro 7 parle de la perfection absolue. Et nous voyons ici, le seul digne de prendre le livre était Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Au milieu de cette question, Christ apparaît dans le lieu céleste. Il porte toujours les traces de son sacrifice, les stigmates de la croix, les cicatrices de ses blessures infligées par les hommes pécheurs. Il n'avait qu'un seul digne partout dans l'univers, digne d'ouvrir ses livres, et c'était Jésus-Christ appelé l'agneau de Dieu. Et lui seul est digne. Il a vécu une vie parfaite, manifesté l'amour de Dieu envers les hommes. Il les a guéris, les a libérés, les a nourris. Et dans chaque aspect de sa vie, il a montré, il a manifesté le caractère, la nature de Dieu, la personnalité, l'amour de Dieu aux hommes. Il a clairement prononcé la parole de Dieu. Il a expliqué Dieu dans tous ses aspects. En Apocalypse, nous lisons qu'il a été mis à mort. Et pourquoi? Encore la réponse est parce qu'il est digne. Mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dignes d'accéder au ciel, d'approcher à Dieu. Et la vérité terrifiante que nous constatons ici encore, Dieu est bon, mais nous ne sommes pas. Et nous constatons par ce psaume que seulement une personne qui a des mains innocentes, un cœur pur, intègre, sans tromperie, peut aller au ciel. C'est lui seul qui peut, comme verset 7 de ce psaume 24, il nous dit, obtenir la bénédiction de l'Éternel, la justice de Dieu, de son salut. Seulement une telle personne peut être bénie par Dieu. Seulement une telle personne peut être sauvée, peut monter au ciel. Dieu est bon, il est l'essence de l'amour, mais nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas innocents. La Bible peint un tableau de l'homme esclave à ses péchés, condamné à de rester un esclave, sans possibilité d'échapper. Mais Christ est peint comme le Rédempteur. Celui qui a la capacité et la volonté de payer le prix de rachat, de nous libérer. En Pierre chapitre 3, verset 18, nous connaissons bien ce verset. En effet, le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes, pour les péchés des humains innocents. Il est mort pour les coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par le Saint-Esprit. Christ a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il nous donne un héritage éternel. Il a la capacité et la volonté. Il est digne. Et cela nous appelle à nous joindre à cette chorale céleste qui loue le Seigneur. Et en psaume 24, nous voyons une vision céleste de la rentrée de Jésus-Christ au ciel. Et voici comment l'Église primitive a interprété, a regardé ce psaume. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est Dieu et il est homme. Complètement Dieu, complètement homme. En Timothée 2 dit, car il est un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et nous avons besoin d'un sauveur qui est homme, qui nous comprenne, qui a expérimenté la vie humaine sur cette terre. Mais on a besoin d'un rédempteur aussi qui est Dieu, qui peut payer une prix infinie pour tous les péchés de tous les hommes. Et ici, dans le psaume, nous voyons pour la première fois dans l'histoire de l'univers, un homme s'approche au portail du ciel. Un homme innocent, d'un cœur pur, il approche au portail du ciel et il crie en haute voix ce que nous lisons en verset 7 de psaume 24. Voici le cri de Jésus-Christ lorsqu'il est monté au ciel. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portail éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Et nous voyons la réponse. En verset 8, et il semble que c'est les êtres célestes qui demandent, qui est ce roi de gloire? Qui est cet homme qui veut entrer le ciel? Jamais un homme n'a osé s'approcher au portail du ciel. Qui ose demander l'entrée au ciel? Et le Messie? L'agneau de Dieu, l'homme Jésus-Christ, le seul être digne dans tout l'univers, donne la réponse. À la fin de verset 8, l'Éternel, le fort et le héros, l'Éternel, le héros de la guerre, porte, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Et pour la première fois dans l'histoire de l'univers, les portails du ciel ouvrent pour un homme. Christ déclare avoir vaincu la mort, et voici la guerre dont il est le héros. Et voici comment l'Église primitive a regardé ce psaume. Et dans un sens, Dieu retire les rideaux et nous voyons, voici l'ascension de Jésus-Christ, de la vue des anges, des êtres célestes, la vue du ciel. Et nous voyons l'écho en Apocalypse, chapitre 5, versets 11 à 13. La voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et le nombre était des myriades de myriades et les milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre et sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les ai entendus dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus-Christ a été mis à mort. Son sacrifice était suffisant pour racheter des personnes de chaque tribu, chaque langue, chaque peuple, chaque langue de toute la terre et pour les réconcilier avec Dieu. Regardez autour de vous. Combien de races, d'ethnies, de pays sont représentés? Combien de langues sont représentées ici? C'est l'Église internationale évangélique. Église évangélique EEIG, n'est-ce pas? Église évangélique internationale. Regardez autour de vous. Vous êtes des représentants de ce foule ici, d'un sauveur, un rédempteur qui a racheté les hommes de toutes les langues, toutes les tribus, tous les pays de ce monde. Et ça, nous voyons que seul Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mis à mort, était digne, innocent, avec les mains pures. Que tous les êtres célestes ont crié d'une voix forte, tu es digne de toute puissance, toute richesse, toute sagesse, toute force, tout honneur, toute la gloire et toute louange. Ils se sont prosternés devant, ils ont adoré Jésus-Christ. Et cette entrée au ciel marque la fin du travail terrestre de Jésus-Christ, la fin de sa souffrance, et il s'assoit sur le trône, la victoire accomplie. Et cet événement marque le commencement du règne de Jésus-Christ. Il commence à mettre le contenu du rouleau en action et à accomplir le royaume promis. Nous savons que c'est par la résurrection que notre justification est assurée. Mais c'est par l'ascension de Jésus-Christ que notre sanctification et notre glorification sont assurées. Parce que maintenant, Jésus-Christ est sur le trône de l'univers et il règne comme souverain. Il y a nombreuses raisons pour lesquelles l'ascension de Jésus-Christ était nécessaire, mais je voudrais citer simplement cinq. L'un, pour que Jésus soit siégé sur le trône à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez des choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Un deuxième, pour qu'il intercède pour nous. En Romains chapitre 8, verset 34, « Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède, il prie pour nous. » Troisième, « Pour envoyer le Saint-Esprit, qui nous fortifie et nous remplit. » En Jean 16, nous lisons, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quatrième, peut-être j'ai quatre points. Pour nous préparer une place au ciel, vous connaissez bien Jean 14, verset 3, « Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il est assis à la droite, il intercède pour nous, il a envoyé le Saint-Esprit et il prépare une place pour nous accueillir. Retournons à notre huguenot. Elino savait que le pire que ses bourreaux pouvaient faire était de le tuer. Et pour lui, la meilleure chose qui puisse arriver était de mourir et d'être aux pieds de Jésus, de son Sauveur, pour l'éternité. Il était assuré de sa résurrection parce qu'il était assuré de la résurrection de Jésus-Christ. Mais encore aussi fort était son assurance de l'ascension de Jésus-Christ. Et c'est pour nous aussi. Par l'ascension, il savait que Christ règne sur l'univers, qu'il est souverain et son destin était entre les mains de Jésus-Christ et que sa souffrance n'était pas par hasard. Ce n'était pas un accident. Et les épreuves de votre vie ne viennent pas par hasard. Ils viennent à travers la main de Jésus-Christ. Ce n'est pas un accident. Christ est souverain. Nous voyons aussi que parce que Jésus-Christ au ciel, Élie savait que toutes ses prières ont été entendues. Parce que si Christ est resté sur la terre, il ne peut pas écouter toutes les prières de tous les croyants. Et vous aussi, parce que Jésus-Christ est au ciel, il est ascendu, vous pouvez être sûr que Jésus entend vos prières, il les écoute. Parce qu'il savait que Jésus a envoyé l'Esprit Saint, il savait que la force qui le soutenait n'était pas la sienne, bien trop faible pour soutenir de telles épreuves. Et le Saint-Esprit est la force de Dieu en vous-même. Parce que Jésus-Christ est monté au ciel et il prépare une place pour ses fidèles, Elino savait que son avenir, soit par la vie ou soit par la mort, était prêt. Pour lui, la mort n'était qu'une porte qui mène directement au pied de Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, votre place est bien préparée et prête pour vous accueillir. Et nous voyons aussi qu'il était assuré du secours de Dieu parce qu'il savait que Jésus-Christ intercède pour lui devant le trône du ciel. Il savait que Jésus est juste à côté de Dieu et il priait pour lui. Et aujourd'hui, maintenant, à cet instant, Jésus-Christ est en train de prier pour vous, pour vos familles, pour votre Église. Et l'espérance de Elino n'était pas sur un homme qui a vaincu la mort et qui vivait quelque part sur cette terre, toujours limité par un corps physique, mais sur Jésus-Christ victorieux, siégé sur un trône céleste, omnipotent, omniscient, et toujours présent à ses côtés et à vos aussi. Et pour conclure, les épreuves de la vie ne vont pas disparaître d'ici le lendemain, simplement parce que vous les ayez confiées au Seigneur. La vie chrétienne est souvent décrite comme un voyage qui traverse des déserts. Vous allez devenir fatigué, confus. Vous passerez par les moments où vous demanderez, où est Dieu? Où est Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il écoute mes prières? Vous aurez de la difficulté de voir les promesses de Dieu accomplies dans votre vie. Vous penseriez que le fait de suivre Jésus-Christ vous porte plus de malheur que de bénédiction, que les principes de l'Écriture ne marchent plus. Et de temps en temps, il semblera que le mauvais côté gagne. Et on dit, pourquoi? Des moments où vous vous sentirez seul, isolé. Et les autres, lorsque vous voudriez simplement baisser les bras, jeter l'éponge, ce n'est pas la peine. Les autres, l'autre côté, Satan, gagne toujours. Et la seule vérité qui puisse servir comme ancre de votre foi, c'est la réalité que Jésus-Christ est assis sur le trône céleste et il prie et intercède pour nous et que toutes ses promesses vont s'accomplir. Et si vous n'avez jamais confié votre vie à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas sûr de votre avenir, le grand message du Nouveau Testament est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a été mis à mort sur une croix et 3 jours plus tard, il a été ressuscité et c'est une fête historique. Et 40 jours après, il est monté au ciel. Et la mort de Jésus-Christ sur cette croix est la seule raison pour laquelle que vos péchés, la saleté de vos péchés puissent être lavés, enlevés et pardonnés et que vous puissiez être purifiés, réconciliés avec votre Père céleste. Et seulement par le meurtre du Fils de Dieu, et vous pouvez en être sûr que sa résurrection est un fait historique, prouvé. Et dans les évangiles, nous avons la vision terrestre de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et en psaume 24 et Apocalypse 5, nous avons la version céleste de l'entrée de Jésus-Christ au ciel. Et par cette ascension, nous avons l'assurance que Jésus-Christ est installé à la droite de Dieu, sur son trône où il règne sur l'univers et d'où il intercède pour nous. Et dans nos jours ici, dans ce pays, dans une Europe moderne, nous avons du mal à imaginer la souffrance des croyants qui nous ont précédés, ici à Genève, ici en France, en Suisse. Pour eux, leur foi en Christ était souvent une affaire entre la vie et la mort. La dite liberté de religion n'existait pas, mais ils ont persévéré par une foi qu'il est tellement rare à voir dans nos vies, dans nos jours aujourd'hui. Nous avons toujours à prendre de leur témoignage qui est aussi notre héritage. Je termine avec quelques lignes des lettres de M. No. Il a dit, « Je crois donc avoir droit aujourd'hui de vous prier d'implorer le secours de la grâce pour me fortifier en la foi, pour me rendre digne de souffrir pour la vérité. Je suis comme un terre altéré. Je commence à avoir faim et soif de la grâce et même je n'ai pas encore bien atteint cette faim et cette soif. Je me réjouis encore, je rends grâce à Dieu de ce qu'après m'avoir estimé digne de souffrir pour son nom, il me donne de bien sanctifier mes souffrances par les victoires que je remporte sur moi-même. Et je reconnais en cela que l'Esprit de Dieu agit puissamment en moi et qu'il accomplit sa vertu dans mes faiblesses. Ton amour, ô Dieu, ne m'a point abandonné. Tu m'as secouru dans ma nécessité. Je t'en rends grâce et louange éternelle, car c'est cet amour infiniment infini que j'adore, puisque tu m'as donné un cœur qui le reconnaît. Donne-moi aussi une âme qui t'aime, mais d'un amour mille fois plus fort que la mort. C'est par là que, ô mon cher Sauveur, que je connaîtrai que j'aime solidement. Si sans ne me lasser jamais par faiblesse de courage, je prends plaisir dans les angoisses, dans les opprobres, dans les persécutions et dans les oppressions pour ton nom glorieux. » Il a dit, au contraire, en pensant de me faire du mal, on m'a fait un grand bien, car je conçois à présent que la véritable liberté consiste à être affranchi du péché. » Une de ses phrases préférées est « L'innocence ne pousse son odeur que lorsqu'il est jeté dans le feu. » Est-ce que c'est ça notre attitude face aux épreuves de la vie? Rarement, n'est-ce pas? Rarement. Post tenebras lux, pour lui, pour les chrétiens dans toute l'histoire, ces paroles avaient un sens plus large qu'un mouvement européen. Ces paroles gravées dans les pierres de prison, embellies sur les façades des églises, imprimées sur les couvertures de la Bible, ont déclaré leur foi dans un Sauveur ressuscité qui est monté au ciel, qui s'est installé sur le trône, qui règne sur l'univers. Et leur espérance est reflétée dans les paroles de l'apôtre Paul à l'église à Éphèse. Paul a écrit en Éphésiens chapitre 1. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous les pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que Dieu nous donne l'espérance, une ancre pour nos vies par l'ascension et la vérité que Jésus-Christ règne sur cet univers. Il est à la droite de Dieu et il prie fervemment pour nous chaque jour. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.